Quelle joie d'adorer notre Seigneur, notre Sauveur, en étant unis ensemble. Et c'est ensemble que nous voulons encore être à l'écoute maintenant de ce temps de parole de Dieu. Merci à Olivier, je vais l'inviter à s'approcher pour un deuxième temps d'enseignement. Ce matin, avec lui, nous avons déjà exploré plusieurs textes du livre des Actes des Apôtres et je crois qu'on va continuer dans le livre des Actes. Il y aura aussi à un moment donné, un temps de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions, interagir avec l'orateur. En tout cas, voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse bien sûr découvrir. Je vais juste encore prier. Olivier, approche. Nous prions. Oui, Seigneur, que ta parole, la tienne, puisse habiter maintenant en nous, dans toute sa richesse. Seigneur, nous te... J'aimerais te dire merci pour Olivier, merci déjà pour tout ce qu'il nous a apporté ce matin et hier, qu'il puisse aussi être béni par sa présence à nos côtés, que tu puisses le renouveler et conduis ce temps maintenant. Permets-nous d'être vraiment à l'écoute de ce que tu veux nous dire, malgré aussi la digestion de l'après-midi, pour que nos cœurs soient ouverts à toi et à ce que tu veux encore faire dans nos vies, dans nos églises parmi nous. Amen. Je laisse la parole, Olivier. Merci.
Je me rapproche un peu de vous. Ça va, vous tenez le choc avec l'après-midi bien chaude. Effectivement, nous avons vu ce matin, parcouru un peu cet événement de la Pentecôte pour nous souvenir le miracle de l'Église naissante et de ce mélange, de cette unité dans la diversité. Cet après-midi, je propose que nous allons un petit peu plus loin avec le livre des Actes pour réfléchir un peu, finalement, à quelques principes. Et c'est vrai qu'il est bon de se souvenir que nous sommes là face à un texte narratif et que nous ne devons pas non plus en faire des règles figées, mais chercher les principes qui sont derrière, sachant que notre contexte est différent de celui du premier siècle, même si on a vu ce matin qu'il y a quelques similitudes très intéressantes. Mais dans ces principes inspirants, j'aimerais que nous puissions réfléchir cet après-midi à la façon dont les premiers chrétiens ont réglé cette transition entre le judaïsme et le christianisme. Et ce qui me semble intéressant, pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on puisse, en tout cas vous proposer d'approfondir cette question, c'est que cela aurait pu générer 1000 fois dans des ruptures profondes et radicales. Il y avait énormément de facteurs, de possibilités de division. Et pourtant, l'Église a tenu. Et donc, nous devons aller en chercher ces principes, puisque les apôtres ont tenu à maintenir cette Église unie, et en particulier, il faut le reconnaître, en particulier l'apôtre Paul, pour des raisons que nous allons essayer d'explorer ensemble. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est comment les Juifs, héritiers de 2000 ans de tradition depuis Abraham, et les païens pratiquant aguerris de multiples cultes idolâtres ont miraculeusement fusionné dans une seule église. Et pour cela, on est obligé d'aller chercher quelques textes clés. Donc je vous invite à vous accrocher pendant la toute première partie. Je vais aller chercher plusieurs textes qu'on va explorer ensemble. Et puis ensuite, on ira assez rapidement dans des questions pratiques. Le premier texte clé que j'aimerais évoquer avec vous, évidemment, c'est le texte d'Actes, chapitre 15, lors de cette fameuse conférence qui a eu lieu à Jérusalem. Et cette conférence, elle est particulière, puisqu'elle coupe l'apôtre Paul dans son élan missionnaire. Il est arrivé à la fin de son premier voyage. Il s'attendait sûrement, étant donné son tempérament, à continuer vers l'ouest. Et il y a un événement inattendu, qui n'était pas programmé, qui vient contrecarrer tous ces plans et qui est très désagréable. Et donc nous lisons, alors que l'apôtre a terminé son premier voyage et qu'il est retourné dans son église d'envoi, l'église d'Antioche en Syrie, l'église qu'il a envoyée, eh bien il raconte tout ce que Dieu a fait dans ses premières contrées de Galatie et de Phrygie. Et tout ce que Dieu a fait parmi les païens et qui se sont convertis, il témoigne de tout cela, l'Église se réjouit. Et c'est là, dans les deux premiers versets du chapitre 15, que nous lisons. « quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis, selon la loi, la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Paul a-t-il accepté d'être allé à cette rencontre à Jérusalem ? Oui, donc clarifier la situation, beaucoup de choses en dépendaient, merci. D'autres réponses ?
Parce qu'il était soumis aux apôtres.
Ah ! Est-ce qu'il était vraiment soumis aux apôtres ? Il ne voulait pas bosser pour rien. C'est une réponse intéressante.
Parce qu'il pensait que l'Église était essentielle pour l'Évangile.
Ah, voilà une réponse aussi intéressante.
Pour la défense de l'Évangile,
ouais. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Alors, il faut quand même se rappeler que ici, nous sommes dans une église qui a été implantée par Barnabas et Paul. La première, le prototype de l'église mélangée, l'église cosmopolite qui est Antioche. Puisqu'à Antioche, on se souvient comment Antioche a été évangélisée, acte chapitre 11, par la persécution des chrétiens dispersés. Ce n'était pas voulu, ce n'était pas programmé par les apôtres de Jérusalem, mais les chrétiens dispersés par la persécution sont arrivés à Antioche et ceux qui étaient d'origine non-juive se sont dit « Pourquoi ne pas prêcher à ces gens-là » Et donc ils ont prêché à ces gens-là qui se sont convertis. Tout cela est arrivé aux oreilles des apôtres de Jérusalem qui ont envoyé un certain Barnabas. Barnabas, originaire de Chypre, un peu mélangé, il pourrait peut-être un peu mieux comprendre ces païens convertis, arrive à Antioche. Qu'est-ce que fait Barnabas ? Il va chercher un certain Saul de Tarse qui était retourné chez sa maman. Il va le chercher à Tarse et il dit « Viens m'aider ». Et c'est la première église d'origine païenne. Et c'est cette église, l'église d'Antioche en Syrie, qui sera la base missionnaire de l'apôtre au fil de ses voyages. Et ils vont rester pendant un an pour enseigner et prêcher à ces nouveaux croyants. Le texte nous dit aussi que c'est la première fois que les disciples sont appelés chrétiens. Et donc, lorsque des frères de Judée arrivent de Jérusalem pour dire « Il faut vous faire circoncire », qu'est-ce que j'aurais dit, moi ? Vous êtes qui ? Franchement, pourquoi est-ce qu'il y est allé ? Visiblement, ils n'étaient même pas envoyés par l'église de Jérusalem. Il aurait très bien pu dire, après tout, rentrez chez vous, ce n'est pas votre église, on n'a aucun ordre à recevoir de vous. Et le pire, c'est que ces gens n'ont même pas été envoyés par les apôtres, je viens de le dire. Alors pourquoi Paul va-t-il à cette rencontre, à Jérusalem ? La première réponse, et vous avez raison, c'est que Paul tenait absolument à refuser la division entre Antioche et les apôtres à Jérusalem. Alors nous arrivons à acte 15, et la suite d'acte 15, je ne vais pas tout lire, on n'a pas le temps cet après-midi, mais brièvement, c'est un texte très intéressant pour la collégialité, puisque ce sont les frères, les disciples, les apôtres et toute l'Église qui décident d'écrire une lettre. Et dans cette lettre, c'est Jacques qui se lève pour résumer ce qui est écrit dans cette lettre. Jacques, le frère de Jésus, qui est devenu un pilier de cette Église, et qui va donc dire ceci. Voilà ce que dit en résumé cette lettre, 19 à 21. « C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, les hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. » Deuxième question. Est-ce que Paul croyait au commandement d'acte 15 par les anciens ? Alors, il était pharisien avant sa conversion. Est-ce que Paul croyait qu'il fallait ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles? Alors je lis simplement deux textes que vous connaissez, hein, le premier dans Romains 14. Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Deuxième texte, 1 Timothée, chapitre 4. Tout est purifié par la parole de Dieu et la prière. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon casque, je crois que je l'ai mis dans le mauvais sens, si quelqu'un veut m'aider du côté de la technique, parce que sinon ça va me travailler tout le long. Tout est purifié par la parole de Dieu et la prière. Donc, visiblement, ce n'est pas tout à fait la conclusion de Acte 15 et de ce qui a été décidé par l'Église et les frères et les apôtres à Jérusalem. C'est intéressant parce que la suite du texte nous dit, au chapitre 16, alors que Paul est dans l'attente de repartir, puisque entre-temps il est revenu à Antioche, il décide de partir pour un deuxième voyage, il a une embrouille avec son ami Barnabas au sujet de Jean-Marc, et finalement il décide de partir avec Silas pour ce deuxième voyage, et c'est là qu'il rencontre un jeune homme qui s'appelle Timothée. Et écoutez bien ce texte qui est très important, et qui nous dit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui et le prit et le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Paul rencontre Timothée et souhaite le prendre avec lui. Et il décide de le circoncire pour ne pas créer de scandale. Est-ce que Paul croyait en l'importance de la circoncision?
Celle du cœur.
Ouais, celle du cœur, tout à fait, Romains 2. Alors, il circoncit Timothée, pourquoi? Ouais, tout à fait. Le texte nous dit parce que tous savaient que son père était grec et à cause des juifs qui étaient dans cette région. Paul ne voulait pas que les discussions s'éternisent autour de cette question. Ce qui était important pour lui, c'était le progrès de l'évangile. Et toutes les concessions qui étaient possibles pour lui, pour faire avancer cette cause, il les a faites. Et regardez bien les versets 4 et 5. C'est frappant. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres. Paul n'était pas vraiment d'accord avec tout ça. En tout cas, ce n'était pas ses convictions profondes. Mais il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Et le verset 5, pourtant, nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour ». Vous voyez, le fruit et les conséquences de cette soumission mutuelle et ce désir de faire avancer le royaume de Dieu. Et finalement, la mission et la soumission mutuelle fonctionnent ensemble si nous voulons voir le royaume de Dieu grandir, même parfois qu'on n'est pas d'accord sur certains points. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Pourquoi est-ce que nous voulons nous battre, finalement? C'est un peu la question que j'aimerais poser cet après-midi. Et c'est vrai qu'il n'était pas 100% d'accord avec le verset 4, mais il était conscient que tout cela allait aboutir au verset 5. Et c'est pour cela qu'il a accepter quelques concessions. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir ceux qui évangélisent, qui sont mieux que les autres, et ceux qui ne le font pas et qui culpabilisent. Nous sommes tous en mission. Nous sommes tous censés être impliqués dans le progrès de l'évangile, d'une manière ou d'une autre. Merci, mes frères en face qui permettent que j'ai un bon micro et que la louange puisse être entendue de manière raisonnable. Nous devons tous faire pour que l'Église, ce soit l'Église qui le fasse. Et c'est ça qui est important. Cette mission, nous devons tous y être impliqués, mais nous devons tout faire pour que ce soit l'Église qui le fasse et non pas simplement des initiatives personnelles. Je continue. Acte 21. Alors, dans Acte 21, nous arrivons cette fois-ci, on fait une avance rapide, hein, puisque Paul a terminé ses trois voyages missionnaires, il arrive depuis Éphèse en disant « Je dois me rendre à Jérusalem ». Il est convaincu qu'il doit se rendre à Jérusalem et on peut même observer un petit parallèle avec le Christ et son chemin vers Jérusalem. Et il y a comme une progression qui est un peu en tension sur cette virée vers Jérusalem, puisque beaucoup de frères et sœurs chez qui il s'arrête pour être accueilli, pour être reçu, avec qui il va prier, vont lui dire « mais il va t'arriver des bricoles ». Finalement, il dit « je suis convaincu que je vais y aller encore ». Il y a même un prophète, le prophète Agabus, qui va prophétiser, qui va être arrêté, mais Paul est convaincu que Dieu l'envoie à Jérusalem. Et donc, finalement, il y arrive enfin. Chapitre 21, verset 15. Nous lisons. Chapitre 21, verset 15. « À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens étaient réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est que nous constatons une certaine différence entre Paul, qui est un croyant comme les frères et sœurs de Jérusalem, et les piliers de l'Église eux-mêmes. D'abord, l'apôtre Paul arrive, il n'est même pas accueilli chez Jacques. Pourquoi pas? Il n'est pas accueilli chez Pierre. Il est accueilli chez Mnason, un nom probablement plutôt grec, originaire de Chypre. Ensuite, il y a des rumeurs qui circulent au sujet de Paul. C'est quand même intéressant. On apprend que certains disent que tu enseignerais de ne pas dire aux croyants de circoncire leurs enfants. Est-ce que les apôtres ont pris position contre ces rumeurs? On n'a pas l'impression que le texte va dans ce sens. Ensuite, nous continuons. Voilà ce que les apôtres décident, en tout cas pour Paul, ce qu'ils l'encouragent à faire. Nous lisons à partir de verset 22. Que faire donc? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra, que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non-juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision et nous revoyons cette décision commune de acte 15 ici qui est rappelée. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Est-ce que Paul avait l'habitude de vivre en respectant la loi? Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu de dire sur ton compte est faux, mais que tu vis en respectant la loi. Et vous savez ce qui me touche le plus? Qu'est-ce que fait Paul? Il le fait. C'est incroyable. Tout ce qu'il avait envie de faire, c'est que les nations puissent connaître l'Évangile et d'aller le plus loin possible. Il se retrouve à Jérusalem, en train de revenir sur des traditions qui ne l'ont jamais sauvé, qui l'ont même perdu dans sa folie jusqu'à persécuter les chrétiens. Et il accepte de le faire. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? On pourrait encore parler de bien d'autres choses. On n'a pas le temps ce matin, par exemple, cette histoire de collecte. J'en dis juste quelques mots parce que c'est quand même intéressant, la collecte envers les pauvres de Jérusalem. Paul a passé son temps, une partie de ses voyages, à récolter beaucoup d'argent pour bénir l'église de Jérusalem. Il n'était pas obligé, mais il arrive. C'était compliqué, hein, à ce temps-là, de se balader avec de l'argent. Les bandits, les criminels, les dangers, les risques. Qu'est-ce qui s'est compliqué la vie? Mais il tenait à le faire. On lit ça dans Romains 15, vous pouvez le lire. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va prendre un peu trop de temps. Mais simplement, peut-être dire que finalement, c'était encore une fois une façon pour lui de montrer que le fruit de l'évangile pour toutes les nations bénéficie à l'Église tout entière. Alors, nous avons vu acte 15 et 11, acte 16, acte 21, et finalement aussi la collecte. Tout cela est résumé quelque part dans ce fameux verset qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens qui a été écrit à la fin de ces trois voyages missionnaires, qui nous dit ceci. Avec ceux qui sont sans la loi, j'étais comme si j'étais sans la loi. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. La bénédiction de l'Évangile, la bénédiction qui transcende l'Église, les nations, les barrières culturelles, ethniques, dont on a parlé un petit peu ce matin. Alors si je raconte tout cela, quel est le lien avec notre thème de ce week-end? Je crois que le problème du long titre de notre week-end, c'est que l'Église arrive à la fin. Parce que je crois que nous sommes bien trop souvent tiraillés par les intérêts égoïstes. Nous sommes souvent pris et obnubilés par la bonne tenue de notre union d'Église, de notre association, ou encore de notre petite Église locale. Alors parfois, ce n'est pas du tout des mauvaises intentions, hein. Notre histoire, le ministère dans lequel on s'inscrit, fait que nous sommes impliqués dans ce service. Je ne pointe personne du doigt, je dis simplement que nous devrions peut-être réfléchir à l'énergie que nous mettons dans tout cela et à la cause que nous défendons. Le protestantisme évangélique est morcelé par des millions de groupuscules. Et on s'imagine bien souvent faire les choses de la façon la plus biblique que les autres, par rapport aux autres. Alors la diversité, bien sûr, j'entends que la diversité est une richesse, et nous savons qu'aujourd'hui, avec les instances comme le CNEF ou d'autres, contribuent grandement à nous rapprocher sur des points essentiels. Mais est-ce que nous sommes réellement préoccupés par la façon dont les autres portent du fruit? Est-ce que nous en réjouissons? Par la façon dont l'ensemble du corps du Christ pourrait être visible aux yeux du monde dans notre façon de nous entraider et de nous honorer, d'accepter que l'autre pense avoir raison même si nos convictions sont différentes. Et cette unité a torturé l'apôtre, littéralement, tout au long de son ministère. Même dans ses plus grandes persécutions, eh bien, il dit que ce qui le dépasse, c'est le souci qu'il avait de toutes ses églises. Et dans la suite d'acte 16, et je tiens à souligner ce petit point, c'est que dans acte chapitre 16, juste après qu'il a embarqué son jeune disciple Timothée et qu'il a recommandé, donc qu'il a enseigné et transmis ses recommandations des apôtres de Jérusalem, que le texte nous dit que les églises se fortifiaient et augmentaient en nombre. Et bien à ce moment-là, dans acte 16, les amis, c'est très important pour nous, hein, il cherche à se rendre vers l'ouest, mais le Saint-Esprit le conduit encore plus à l'ouest. Il ne sait pas exactement où aller, mais tout à coup, il reçoit une vision. Et qu'est-ce qu'il reçoit dans cette vision? Un Macédonien qui le supplie. Ce Macédonien lui dit « Viens nous voir ». Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul dira qu'il cherche à se rendre en Macédoine. Et les amis, l'Évangile est venu jusqu'à nous. Il a mis les pieds sur notre continent européen parce qu'il a obéi, parce qu'il n'était pas omnibulé par ses propres intérêts, parce qu'il a recommandé, il a transmis ses recommandations, même s'il n'était pas d'accord avec tout. Il a dit, je veux le progrès de l'Évangile. Et tout cela a permis qu'il passe de l'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, jusqu'à la Grèce actuelle, et qu'il mette le pied à Athènes, à Philippe, à Corinthe. Et à partir de là, l'Évangile est venu de la Palestine jusqu'à nous. Quelles sont les concessions que nous sommes prêts à faire pour mourir à nous-mêmes pour le progrès de l'Évangile? Et c'est vraiment ma question. Pourquoi est-ce que nous nous battons dans notre Église? Qu'est-ce qui nous préoccupe dans l'Église? Est-ce qu'on tient davantage à nos traditions, nos fonctionnements, nos habitudes, notre famille d'Église, ou l'historique de nos églises, de nos familles, de nos grandes familles? Ou est-ce qu'on est prêt à se laisser vraiment bousculer par le monde qui change et accepter d'être prophétique et de nous laisser toucher par le Seigneur? La circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'Esprit. Et ce qui est important, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, dans Galates chapitre 6, mais le fait d'être une nouvelle créature. Et cette nouvelle création, cette vie qui émane de la vie de l'Esprit et que nous a peint merveilleusement ce matin notre sœur, est-ce qu'il y a des choses qui l'empêchent, que nous pourrions accepter de mettre de côté? C'est un peu ma question, peut-être je vous laisse un peu réfléchir à cela si vous avez des idées. Quel est le type de tradition, de coutume qui empêcherait le Saint-Esprit d'emmener la vie? Quel est le type de circoncision qui pourrait empêcher nos églises de mettre nos priorités vers le progrès de l'Évangile et d'ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés? Des idées?
Donc on pense que le Saint-Esprit n'agit plus aujourd'hui comme il agissait dans les actes des apôtres.
Donc, certains pensent que le Saint-Esprit n'agit plus aujourd'hui comme il agissait du temps des actes des apôtres. C'est une bonne remarque. Est-ce que Jésus continue d'ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés? Est-ce qu'il y a un plus grand miracle que quelqu'un qui accepte Jésus-Christ dans sa vie? Je ne crois pas. D'autres réponses? Quels seraient les freins, les traditions, les coutumes que nous pourrions peut-être remettre en question? Merci, ouais. Intéressant. Le fait d'accepter de se laisser aider dans des situations où on a un rôle ou un poste particulier, ouais. Merci pour cette remarque, Joseph. D'autres? Ouais. Jusqu'où est-on prêt à nous laisser bousculer pour la croissance de l'Évangile, ouais. Oui, des exemples? Consigne vestimentaire, ouais, d'accord. Ouais, le culte dimanche matin, ouais, pourquoi? En tout cas, je conclue peut-être simplement en disant que la naissance de l'Église représente ce changement de paradigme. Et les premiers croyants ont su prendre ce virage. Je crois que nous devons être prêts aussi à prendre certains virages aujourd'hui. Le monde avance très vite et change très vite. Et c'était le cas au premier siècle. Nous avons ces exemples sous les yeux. Lorsqu'on se réjouit du progrès du royaume de Dieu, nous sommes prêts à changer. Et peut-être que, en tout cas, c'est une idée qui m'est traversée dans le train hier. Et je pense que ce serait intéressant d'essayer cela. Je vais vous bousculer un petit peu, mais peut-être que nous pourrions prendre 5 minutes pour prier les uns pour les autres. Ce serait quand même chouette. J'ai vu que j'ai 10 minutes de marge. Donc peut-être qu'on peut prendre 5 minutes. Donc je vous invite à vous mettre entre personnes de différentes églises, différentes communautés. Et peut-être on peut simplement prendre 5 minutes pour prier les uns pour les autres. Si vous avez des sujets, vous pouvez les dire brièvement, mais ne parlez pas trop longtemps. L'idée, c'est vraiment de prier. Et puis après, S'il reste 5 minutes, on pourra encore laisser place à des questions. Ça vous va? On prend 5 minutes, simplement, spontanément, peut-être se tourner vers des personnes qu'on connaît moins. Merci de reprendre place. En tout cas, c'est beau de voir ce petit brouhaha de prières partagées, de prier les uns pour les autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions. Suite à ce matin, cet après-midi, je peux profiter des 5 minutes qui me restent, même pas, je ne sais pas. Marc, tu me fais signe. On a encore apparemment 10 petites minutes, donc s'il y a des questions. Oui.
Comment vous avez procédé pour parler à des nations étrangères qui résident au milieu de nous? Comment vous avez eu la vision?
Donc comment procéder pour parler donc aux nations étrangères qui sont au milieu de nous, hein? La question est posée. C'est vrai qu'au niveau de Montbéliard en particulier, Montbéliard est une ville ouvrière, avec la maison mère de Peugeot-Sochaux. Donc nous avons là tout un vivier de travailleurs immigrés qui sont arrivés dans les années 70-80 et qui ont qui sont nombreux au milieu de nous. Il y a ce mélange entre les qui s'est fait avec les agriculteurs mennonites et tous les chrétiens, et Montbéliard qui était une terre protestante également, hein, qui s'est mélangé, qui est un mélange intéressant. Donc si tu veux, il y avait déjà ce mélange au niveau social, au niveau de la société, dans notre pays. Maintenant, c'est pas tout. Après, le tout c'était de pouvoir créer ces relations, ces dialogues. Alors le fait qu'on avait aussi ce local, hein, certains le savent, donc nous avons cette Maison Blanche, ce petit local qui est au cœur du quartier de Betancourt, à côté de Montbéliard, dans lequel nous faisons des activités. On va fêter cette année les 70 ans. 60 ans, je confonds. 60 ans de ce lieu. Et alors on a fait tout un travail aussi dans ce quartier pendant de nombreuses années, ce qui a aussi favorisé le relationnel, mais j'aurais presque envie de dire que la grande majorité des membres de nos églises, que ce soit chez nous, les Ménos à Montbéliard ou les autres églises du pays de Montbéliard, ont eu des collègues musulmans. Donc la question c'était de savoir que faites-vous avec vos collègues, vos amis? Est-ce qu'on laisse passer en disant qui se débrouille, qui s'intègre, c'est leur tradition, c'est leur truc, ou bien est-ce qu'on se dit c'est une opportunité de faire du lien, de montrer qu'on est bienveillant et de pouvoir témoigner de l'Évangile, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça aide. Une autre question? Ouais.
Alors, en dehors de ton arrivée, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'on a maintenant ça?
Ouais, c'est une bonne question. Donc la question, c'est de dire, c'est vrai qu'au début des années 2000, il y avait encore la petite chapelle, c'était une église est-ce qu'on peut dire genrée? c'était plutôt blanc, voilà. C'est vrai que ce qui a beaucoup changé, c'est la transformation de l'Église, quoi. Dans le sens où c'était déjà un changement difficile pour certains d'accepter que l'Église devient trop petite et qu'il faut bousculer cette petite chapelle où on se sentait bien. Donc ça a déjà créé en fait une ouverture, un bousculement qui a fait que l'Église était ouverte à d'autres changements. Dans les années 2018-2019, on a inauguré en 2019, et ensuite après il y a le Covid, mais ensuite 2020, après le Covid, on va dire qu'on était surpris, hein, Et on a eu beaucoup de surprises, de nouveaux venus, de gens qui se présentent, qui posent des questions, qui, voilà, parfois on a eu aussi des déçus de l'Église. On ne l'avait pas souhaité, mais on doit pouvoir aussi accueillir. On n'a pas envie de cela, mais quand ça nous arrive, on doit pouvoir aussi être bienveillant, accompagner. Donc, les nouveaux convertis, les déçus de l'Église, les personnes de toutes origines, les Alsaciens qui arrivent en Franche-Comté comme moi, donc tout ça, ça fait des mélanges qui font qu'à un moment donné, l'Église voilà, se laisse entraîner là. Et puis, bah, voilà, je crois que l'Esprit-Saint a fait son travail, quoi, tout simplement. Mais après, il y a des personnes qui sont parties de l'Église aussi, hein, qui n'ont pas forcément eu envie de ce changement. Voilà, Jacques, tu voulais dire ? Merci Jacques. Donc Jacques nous dit, c'est quoi d'après moi les freins, les coutumes ou les traditions qui pourraient freiner franchement, je pense que la réponse est multiple. J'aimerais pas donner une réponse générale parce qu'on a même dans nos églises, hein, il y a des raisons différentes. Il y a différents types d'habitudes, de coutumes, de choses qui se sont installées. Donc, à mon avis, c'est vraiment quelque chose à réfléchir au niveau local. Après, j'ai l'impression quand même que parfois, nous nous sommes endormis dans des choses, un certain confort familial avec des familles qui se ressemblent, avec des générations qui se transmettent, et on est bien entre nous. Et c'est bien si on ne se mélange pas trop, quoi. Que, clairement, je pense que c'était un frein pour l'avancement du royaume de Dieu et de l'Évangile, d'être dans ce confort, dans cet entre-soi familial, de nos grandes familles évangéliques. Et parfois, il y a aussi une sorte d'attachement à nos familles d'Église, de ce qui a été transmis par nos pères ou de ce qui a toujours été comme ça, dans nos églises, et puis voilà, c'est un peu les choses auxquelles je pense. Mais d'autres questions ? Bien, merci à vous. Je te passe la parole, Marc. Ah oui, c'est la louange. Merci à vous. Oui.
Oui, par rapport aux musulmans, comment les approcher ? Je veux dire, ce ne sont pas forcément tous des collègues de travail. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui sont venues dans votre église sans être invitées par vous, ou ils se sont dit « Ah, j'aimerais bien voir comment ça se passe chez vous ». Ou bien, et est-ce que vous avez déjà eu des personnes que vous avez essayé de parler, ou vous avez essayé de parler de Dieu, où ils ont peut-être, vous ont déjà peut-être posé la question, mais qu'est-ce que vous avez de plus que nous ? Moi, j'ai ma religion, pourquoi est-ce que moi, je devrais changer ? Est-ce que vous avez déjà été confronté ?
Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a plusieurs questions, hein, ma chère sœur. Donc, la question de l'approche des musulmans, et puis il y a aussi donc, la question de cette idée de pourquoi vouloir imposer voilà, ma foi à l'autre. Non, pour la question de musulmans, c'est très difficile pour un musulman de venir dans une église. C'est pour ça qu'on a créé ces soirées orientales, ces soirées passerelles, où en fait, ils peuvent inviter, c'est un samedi soir, ce n'était pas un dimanche. Les gens viennent au café, on a l'avantage d'avoir un café à l'accueil de l'église. Et on fait ces soirées ici avec des gâteaux, et puis on prend un temps de louange, et puis on s'adapte un petit peu pour dire, bah, ce samedi soir, en fait c'est un peu un petit culte, hein, mais ces personnes sont invitées à participer à cette fête. Voilà. Et donc à partir de là, les gens sont plus libres que pour un musulman de venir un dimanche matin, c'est très radical, c'est très difficile, non, c'est clair. Donc c'est un peu comme ça, au fur et à mesure, en étant un peu créatif, qu'on a eu des collègues, des amis, des personnes qui arrivent. Après, il y a quelque chose que j'ai jamais vu auparavant, c'est que nous commençons d'avoir, et moi je pense que toutes nos églises vont commencer à recevoir ce type de personnes, des gens qui débarquent au milieu de nulle part J'ai, pendant notre week-end oriental, un jeune de 21 ans, il était 11h20, qui débarque, qui dit « Je veux devenir chrétien ». Il a 21 ans, d'origine haïtienne. Il est là, il a regardé une vidéo sur les réseaux sociaux, touché par le Saint-Esprit. On n'y peut rien. C'est le Seigneur juste qui pousse. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et je veux dire, il faut qu'on soit prêt à recevoir ces gens. Alors, il ne faut pas juste penser qu'ils vont venir à nous, hein. Effectivement, il y a cette idée, il faut qu'on... C'est pour ça que les cours alpha sont intéressants, c'est que on arrive justement en disant, on n'est pas en train de vous dire que c'est nous qui avons raison sur tout. Observez, écoutez ce que le Christ a dit et décidez. Et le Saint-Esprit fait son chemin. Donc les gens ont droit de dire, moi je pense différemment. Et il y a vraiment cette idée dans le postmodernisme, hein, chacun a sa propre vérité, donc de laisser l'espace aux gens pour dire ce qu'ils ont envie de dire, de respecter leurs croyances et de témoigner avec qui on est, avec notre accueil, notre repas, pour dire, venez, écoutez et voyez. Voilà.